Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Entre chacun de ses séjours au pays du ciel bleu, Marc Allot, salarié de Transboréal, consacre tout son temps libre à l'étude des steppes d'Asie centrale et de Haute-Asie. Il donne régulièrement des conférences, participe à l'organisation d'événements culturels en rapport avec la Mongolie et publie des articles sur l'économie, l'histoire et la culture mongole. Fin connaisseur de ce monde, qu'il a déjà parcouru plusieurs fois en solitaire avec son ami d'enfance ou sa compagne, il nous livre dans cette émission son livre « Sous les yourtes de Mongolie » qui retrace son voyage dans le désert du Gobi jusqu'au versant occidental du massif du Khenti en passant par la frontière bouriate à Oulan-Bator. Pour rentrer en contact avec ces gens, parler leur langue. Comment s'est passé l'apprentissage de la langue mongole? C'était sur le terrain ou tu t'y es intéressé avant d'y arriver? Comment tu as préparé ton voyage?
Alors j'ai dû partir avec un bagage de 10 ou 15 mots de vocabulaire mongol. J'en connais maintenant 1500. Mais j'ai toujours une très très mauvaise connaissance de la grammaire. Et donc j'ai un ami mongol, Munko, en région parisienne qui a promis très prochainement de me donner des cours pour ne plus parler petit nègre et ne plus dire moi trouver viande bonne, mais essayer de construire quelque chose de plus civilisé. Voilà, alors c'est absolument formidable de voir à quel point les gens sur place, les Mongols, pouvaient être touchés par l'effort que je faisais d'apprendre leur langue. Et en même temps, c'est très frustrant parce que finalement, plus vous parlez une langue, plus les gens parlent vite et abordent des sujets abstraits. Or moi, pour l'instant, avec mon petit bagage de 1500 mots de vocabulaire, la seule chose dont je peux parler, ce sont les choses que je vois. Voilà, il faut que finalement, que les paroles soient accompagnées de gestes ou finalement que les sujets abordés soient très concrets, très actuels. Voilà. En revanche, il suffit que... la personne, que mon interlocuteur comprenne que mon bagage de vocabulaire est restreint. Et à ce moment-là, en employant les mêmes mots, en faisant attention, en parlant lentement, en faisant attention à la construction de ces phrases, il peut me faire parler, il peut me communiquer beaucoup d'informations. Et j'ai un excellent souvenir. Avec mon épouse, en 2006, nous avions marché sur 500 km d'Oulan-Bator, la capitale, jusqu'au lieu de naissance présumée de Gengis Khan dans les montagnes du Khenti. Et qui sont notamment peuplés de bourriates. Et j'ai un excellent souvenir d'une soirée passée avec un vieil homme bourriate qui, malgré ma faible, très faible connaissance de la langue mongole, a réussi à me parler de toute sa généalogie sur 5 à 6 générations de populations qui étaient venues du lac Baïkal jusqu'en Mongolie, qui avaient subi les purges anti-bourriates en 1938, etc. Et donc voilà, il suffit que l'interlocuteur soit attentionné et à ce moment-là, j'arrive à quand même à intégrer beaucoup de choses.
On va s'intéresser maintenant un petit peu à la yourte. Tu parlais de la joie de vivre mongole. J'aimerais savoir ce qui se passe dans la yourte, comment la yourte est organisée. Et j'aurais aussi envie que tu me chantes une chanson. Tu as pu mémoriser certains airs traditionnels.
J'apprécie beaucoup un chanteur de variété qui s'appelle Javklan. Alors je suis très mauvais chanteur, donc je n'oserais pas entonner. Mais il y a une chanson qui est très très belle, c'est Bustin Tsenher Nur. Mais voilà, j'oserais pas la chanter.
Parle-moi du chant, du rôle de la musique, de la chanson dans le peuple nomade, chez les nomades. Alors, chez les Mongols.
Tout d'abord, ce qu'il y a de très très beau, avant de parler du contenu des chansons, c'est d'évoquer la simplicité avec laquelle les Mongols chantent. Qu'ils soient seuls, le berger sur son cheval qui garde les moutons toute la journée et qui... chante pour s'occuper. Voilà, il y a une beauté à parfois, lorsque vous êtes en bivouac, entendre une voix qui résonne et c'est un berger qui reconduit ses bêtes vers la yourte et qui, voilà, pour s'occuper. Voilà, il y a ça qui est très très beau. Il y a ensuite les chants en groupe et là effectivement on rejoint le thème de la yourte que vous évoquiez. Et là, pareil, il y a une joie de vivre, notamment si on a assisté au Tsaransar, le nouvel an mongol qui se situe au mois de février. Et alors là, il y a on sent la communauté mongole, quoi. Et je pense que chaque individu connaît des dizaines de chansons, de A à Z. Et lors de ces réunions, l'ancien lance la chanson, et c'est généralement l'ancien, et puis, ou alors il y a presque un maître de chant qui lance la chanson, et puis voilà, toute la communauté reprend. Et ça, c'est très touchant. Ça donne vraiment des frissons. Et puis, il y a ensuite, alors là, c'est plus ethnographique, il y a ensuite une richesse non pas les conséquences, mais les objectifs du chant, c'est-à-dire que les pasteurs ont développé des chants pour la traite, sont censés détendre les animaux, et donc il y a pour les brebis des chants pour les brebis, des chants pour les vaches, de façon à inciter les femelles à donner le lait. On a récemment vu à l'écran l'histoire du chameau qui pleure de Byamba Surendava, la réalisatrice, où là, ça n'est plus seulement un chanteur, mais un vielleux, un joueur de morinhur, de viel cheval, cette espèce de petit violoncelle à caisse trapézoïdale, avec deux cordes constituées en crins de chevaux, et qui lui entonne une mélodie de façon à rapprocher une chamelle de son chamelon après qu'elle l'ait abandonné, ou plutôt après sa naissance, qu'elle le rejette. Voilà. Et donc, il y a comme ça une puissance dans le chant et dans la musique mongole qui est presque une magie, qui est incroyable. Et j'ai une amie mongole qui a récemment accouché en France, à La Rochelle, et qui a surpris toute l'équipe de la maternité lorsque, après l'accouchement, on lui a tendu son enfant, on lui a mis dans les bras. La première chose qu'elle s'est mise à faire, c'est entonner un chant pour l'accueillir, pour lui souhaiter finalement la bienvenue sur Terre. Voilà, et ça, c'est très très beau.
On va rentrer dans la yourte, où on va plutôt essayer de mieux comprendre la vie du nomade mongol. Est-ce que tu peux me parler d'une journée type en Mongolie quand on vit dans la steppe?
Ando da shahazwegshike.
Alors tout d'abord, la yourte qui est qui constitue le cœur, le centre de l'univers du pasteur. C'est un univers qui est masculin et féminin, mais c'est généralement la femme qui s'en occupe. On a une répartition avec le centre de la société qui est occupé par les femmes, avec le foyer et la yourte, et puis finalement l'extérieur, les pâturages, et donc nécessairement aussi, si on se réduit au cadre urbain, tous les transports, toutes les tâches extérieures, etc., qui sont allouées aux hommes. Et donc parfois, on peut trouver, nous, avec notre œil un peu féministe, que c'est réducteur. En attendant, moi j'ai plusieurs amies mongoles, LES, enfin des jeunes femmes, qui m'ont dit, mais tu sais, en hiver, nous on apprécie d'être sous la yourte pendant que les hommes sont au pâturage, non pas sur leur cheval, parce que le cheval se repose en hiver, mais seul à pied, avec les mains enfouies dans la dalle, et puis ils gardent les moutons toute la journée par moins 20 ou par moins 30 degrés. Voilà, donc il y a une répartition comme ça de l'accueil. Voilà, c'est sous la yourte qu'on accueille, et donc c'est la femme qui est chargée d'accueillir les visiteurs, et au contraire, l'homme, lui, porte, c'est lui qui visite les familles. Et donc, pour en revenir à la yourte, c'est un espace assez étonnant. Donc la yourte, c'est une tente circulaire au toit conique, qui est uniquement constituée de bois, pour les treillis qui constituent les murs verticaux, et puis pour les perches qui supportent le toit. Et toute la couverture est constituée en couverture de feutre, c'est-à-dire de laine de brebis et de mouton, qui est foulée et puis roulée. Et dans cette tente, le visiteur étranger ou mongol généralement se dirige plutôt à gauche, qui est dans l'espace masculin. Et à droite, en rentrant, c'est un espace qui est plutôt féminin. Voilà. Alors nécessairement, pour le matériel, pour le petit matériel, à gauche, on va plutôt trouver la sellerie, le fusil, et puis finalement tout ce qui est utile aux hommes, la scie au-dessus de la porte, de façon à arrêter les mauvais esprits. Et puis à droite, le coin cuisine en rentrant, et puis un lit. Voilà. Et ce qu'il y a de très très beau, c'est de voir effectivement le couple, le père et la mère de famille, vous accueillir, et eux sont généralement au fond, et donc là c'est la place d'honneur. Et au fond, vous avez le père de famille qui vous fait face, qui fait face à la porte quand vous rentrez. Et juste derrière lui, il y a encore finalement le grade au-dessus, et c'est le deur, l'hôtel familial sur lequel on va déposer tout ce qui a de la valeur. Alors pas nécessairement valeur financière, quoique souvent quand on s'y couche, c'est là qu'on pose les lunettes ou la montre, mais surtout une valeur sentimentale ou spirituelle. C'est là qu'on expose les portraits funéraires, c'est-à-dire par exemple le père ou le grand-père qui est décédé. Sous son portrait, on va, lors des dates anniversaires de son décès, déposer un bol rempli de riz ou rempli de lait, de façon à ce que finalement l'âme continue de non pas de s'approvisionner, mais de prélever de la force dans les nourritures terrestres. Et puis c'est là qu'on trouve les petits moulins à prière, les bougies à beurre, mais aussi le sac avec les chagailles, les osselets avec lesquels les enfants jouent, le petit calendrier, les abacs, le petit calendrier qui indique les jours fastes et les jours néfastes, les jours pendant lesquels il est conseillé d'entreprendre une action importante comme une nomadisation ou comme même une coupe de cheveux, et les jours pendant lesquels il vaut mieux ne rien faire.
Selon quelle foi, selon quelle croyance ?
Alors là, je pense que c'est un certain nombre de calendriers à la fois bouddhistes et puis de croyances plus anciennes que nous, occidentaux, disons chamanistes, mais pas nécessairement. Voilà, c'est un fond de superstition très ancien. Et donc tout ça est croisé par les lamas qui ensuite éditent ce type de calendrier. C'est aussi là qu'on trouve l'art, la poudre de genévrier qu'on fait brûler pour purifier la yourte après un accouchement, après un décès, enfin, voilà, une naissance, des choses comme ça. Et donc vous avez cette espèce de phare, de pôle, qui à partir duquel au fond toute la yourte s'organise. Voilà. Et la magie de la yourte, c'est que c'est un espace circulaire et tout le monde s'assoit en cercle, les uns face aux autres, autour du poêle central, donc un poêle en fer blanc, en métal, avec une cheminée qui s'échappe par le trou à fumée de la yourte au plafond.
Oh, sembete. Ачтай төрсөн сайхан ээждэм Адтай мэндэсэн үрэн би билээ Цэвэр арун ээжийн хэсэдгээл Цэцэгэн болон дэлгэрсэн билээ Цэцэгэн болон дэлгэрсэн билээ Нададаа ээж мин заяасан билээ
Je crois que tu disais dans une de tes conférences que quand on voit une yourte, on ne frappe pas avant d'entrer.
Disons il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans le sens où généralement celui qui approche d'une yourte n'a pas vraiment à s'annoncer puisque le banrar, le chien mongol va le charger. Donc imaginez un dog du Tibet avec une toison très épaisse, noire et qui, une fois qu'il vous connaît, est très gentil. Mais pour la première fois qu'il vous voit, généralement, il vous charge de façon à tenter de vous déchiqueter. Et donc, au point même que la coutume mongole veut que quelqu'un qui approche une yourte, finalement, prononce la phrase de « retenez les chiens ». Voilà, c'est une façon de s'annoncer. C'est pas juste pour éviter d'être attaqué. C'est devenu une formule de politesse.
Chaque famille possède un chien ?
Alors, un ou plusieurs, ensuite, c'est toujours très difficile. C'est-à-dire que il m'est arrivé à l'été 2009, assez récemment, de croiser des Mongols Ulyanghai dans le haut Altaï, dans l'ouest du pays. Ils étaient à 2500 mètres ou 2800 mètres d'altitude. Et eux n'avaient dans leur campement d'été que des yaks. Voilà. Et ils me disaient qu'effectivement, le yak n'avait pas besoin de chien pour être protégé des loups. Et le chien avait même tendance à embêter les yaks. Voilà. Mais globalement, quand on a un campement, on a un ou plusieurs chiens. Et ces chiens ont parfois comme nom Arslan, le lion. Voilà, ça c'est assez. Donc ça dit beaucoup de choses sur la capacité de ces chiens à protéger le campement. Voilà, ce sont avant tout des chiens de protection, de défense, et non pas des chiens de travail, comme diraient nos bergers. Voilà, ce sont des chiens qui généralement ne sont pas dressés pour manœuvrer le troupeau, mais vraiment pour le protéger des prédateurs, comme le léopard des neiges dans l'Altaï, dans l'Ouest, ou bien les loups qui sont très nombreux dans la steppe.
Là, on est sur le salon du tourisme, donc la Mongolie est une destination plutôt à la mode en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de l'impact du tourisme sur le nomadisme aujourd'hui ?
Alors, je ne suis pas professionnel du tourisme, donc ça n'est peut-être pas à moi d'en parler. Ce qui est sûr, c'est que le tourisme, comme n'importe quelle industrie, a un impact aussi bien sur l'environnement que sur les populations à partir du moment où il est massif. Voilà. Et le tourisme, c'est aujourd'hui une composante avec laquelle il faut faire et qui a très certainement un grand nombre de points positifs, de conséquences positives également. Et donc, du coup, l'avenir, à mon avis, du tourisme, comme l'avenir de la Mongolie par le tourisme, ça passe par des petits groupes qui favorisent la rencontre, qui favorisent l'échange, la découverte, qui préparent le voyageur avant même le voyage à lire, à écouter de la musique, à assister à des conférences, de façon à se familiariser avec les façons de faire. Voilà, aborder la Mongolie en trouvant encore cruelle la façon qu'ont les pasteurs mongols de tuer un mouton en incisant l'abdomen, en glissant la main, etc. Voilà, ça c'est une réaction vraiment, vraiment stupide. Parce que une fois qu'on s'est familiarisé avec la façon de faire, une fois qu'on a vu un éleveur procéder comme ça, eh ben c'est plutôt notre façon de faire de dégorger dans des abattoirs le bétail par milliers qui nous paraît subitement cruel. Et donc le fait de préparer longtemps à l'avance, de désirer farouchement son voyage et non pas de consommer voyage sur voyage, ça c'est une première chose. Et ensuite le fait de partir avec des petits groupes, avec des associations comme Manoul ou Ayan Mongolie, des choses comme ça, ça aide très certainement à la protection des populations et puis au fait de ne ramener pas seulement des souvenirs, mais un enseignement.
Donc selon toi, le voyageur qui souhaite voyager d'une façon responsable, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte et en considération pour pouvoir minimiser son impact sur les populations rencontrées ?
Je pense que le désir de voyage, avant tout, il ne doit pas venir d'une réduction sur des billets d'avion à des griffe-tours ou autres, mais d'une véritable envie d'aller à un endroit, d'y rester le plus longtemps possible, quitte à ne pas repartir en vacances longtemps après.
Il faut peut-être aussi différencier les vacances du voyage, c'est pas la même chose.
Oui, et puis cessons aussi peut-être de n'envisager le voyage qu'à l'étranger. Voilà. Il y a sûrement une façon de découvrir, de redécouvrir la France, non pas seulement en visitant les hauts lieux historiques, les hauts lieux archéologiques, etc., mais en sympathisant avec des populations de Picardie, du Massif central, etc., qui sont agriculteurs, qui sont tenanciers de café, etc., et qui, à leur façon, vont vous expliquer leur univers, leur façon de vivre, leur vie quotidienne. Et à ce moment-là, on découvre finalement que même si la personne vit à 100 km seulement de chez vous, finalement, elle a un certain exotisme, elle a un intérêt incroyable.
Je vais reprendre le bouquin qui est posé là sur la table, sous les yourtes de Mongolie, Marc Allo. Donc ça, c'est ton dernier livre.
Alors, c'est la deuxième édition du récit de mes 4 premiers voyages à pied en Mongolie et qui est enrichi, c'est donc un récit d'aventure, mais qui est enrichi de réflexions sur la place de la femme dans les communautés rurales, sur l'éventuel avenir du nomadisme, le voisinage parfois difficile avec la Chine et la Russie, mais aussi la vie urbaine, la façon qu'ont les Mongols d'appréhender l'étranger, les nationalismes qui émergent. Voilà, ça c'est Sous les yourtes de Mongolie, c'est paru aux éditions Transboréales.
Oh, Dans tous tes voyages, tu as choisi de voyager à pied ?
Oui, alors ça peut paraître stupide de voyager à pied au pays du cheval. Effectivement, je n'ai que très rarement chevauché en Mongolie. Mais j'ai tout de même acheté différents chevaux avec lesquels je suis resté durant 7 à 8 mois, ce qui m'a permis de voyager avec ces animaux de bas, mais surtout de vivre jour et nuit avec eux, d'avoir à m'en occuper au bivouac, d'avoir à les nourrir, à les hydrater. Et puis, surtout en Mongolie, le cheval est un support de communication absolument formidable. Voilà. Il est porteur d'un imaginaire, il est porteur d'une culture équestre folle, et avec un éleveur nomade, et encore plus avec les Adouchines, ceux qui sont vraiment de grands éleveurs de chevaux. Alors là, vous pouvez discuter des heures et des heures sur la façon d'attacher une sangle ventrale de selle, de réparer un arçon, de brider votre cheval, de l'entraver. Voilà. C'est un support de communication complètement fou.
Donc dans la plupart de tes voyages, tu as traversé la steppe à pied. Donc c'est peut-être quelque chose d'un petit peu fou. Quand on se place du côté du nomade mongol qui, lui, vit à cheval, comment est-ce que tu étais perçu quand tu arrivais quelque part ?
Toujours comme un fou, ou très souvent comme un fou. Même lorsque effectivement j'étais accompagné de chevaux de bas, mais encore plus lorsque j'avais mon havre sac sur le dos avec parfois jusqu'à 35 kilos de matériel. Ça c'était la réaction première. Et puis il s'apercevait que je parlais un peu mongol, que j'avais une à peu près bonne connaissance de leur culture, de leur histoire même, que je connaissais excellemment bien la géographie mongole avec tous les noms de villes, de villages, de provinces, que je connaissais les noms des gens au gouvernement. Et puis, il s'apercevait dans un deuxième temps que je connaissais aussi le nom de la vallée que je venais de traverser, du voisin de la zone désertique voisine. Il s'apercevait aussi que les trois chameaux, qu'il cherchait depuis un jour, je les avais aperçus 55 km au sud-est, que je pouvais leur dire, ah oui, dans ces trois chameaux, il y avait une femelle qui a la queue blanche. Voilà, il s'apercevait aussi que le voisin précédent nous avait laissé un petit papier sur lequel était griffonné plein de choses sympathiques sur nous. Et voilà. Et à ce moment-là, il s'apercevait que la marche à pied, même si elle est un peu folle pour un Mongol, c'est un moyen de découverte lente, progressive, à l'échelle humaine, au rythme humain, non seulement de la géographie, mais aussi une façon d'aborder les populations qui est très modeste. Parce que on arrive uniquement là où on peut arriver. Et ça n'est pas un avion ou ça n'est pas un véhicule à moteur qui nous porte au fin fond des steppes ou au fin fond des monts Altaï ou des monts Sayan. C'est uniquement notre volonté. Et alors ensuite, il y a parfois des anecdotes moins drôles. C'est lorsque, en 2004, avec mon ami d'enfance Laurent Barraud, j'ai cheminé durant 6 mois sur 2300 km à travers les montagnes des confins nord-ouest. Nous avons été pendant 6 mois sur la frontière russe, parfois très très proche. Et il nous est arrivé à deux reprises d'aborder un campement et de voir les gens en partir en courant, parce qu'effectivement personne n'arrive de ces régions-là, si ce n'est peut-être des contrebandiers. Voilà, il y a beaucoup d'histoires de brigandage sur la frontière nord-ouest de la Mongolie, de moins en moins, mais il y en a eu beaucoup avec une série de meurtres et de choses très tristes. Et donc voilà, le fait d'arriver à pied parfois, enfin à deux reprises seulement, mais sur deux années de marche c'est très peu, mais à deux reprises ça a provoqué la peur de ces gens qui sont avant tout des cavaliers.
Pour mieux te connaître, mieux connaître ton parcours, mieux comprendre la Mongolie et le mode de vie des nomades, je vous invite tous à aller sur le site de Transboréal, donc une boîte d'édition sur lesquels vous pourrez trouver les livres de Marc Allo, Sous les yourtes de Mongolie, Les vertus des steppes, et le troisième.
Alors le troisième, c'est un texte de Nikolaï Przewalski que j'ai réédité. Alors Nikolaï Przewalski, c'est la figure emblématique au 19e siècle de l'exploration russe en Sibérie, en Mongolie et au Tibet. C'était une sorte d'alchimie assez violente entre un Théodore Monod et un Indiana Jones. Voilà, un officier du tsar qui était capable de se défendre seul contre une horde de brigands tibétains, et puis aussi de collecter du vocabulaire tibétain, de collecter des plantes, de constituer un herbier, de rapporter les dépouilles d'animaux qu'il avait empaillées sur place. Voilà, un récit de 3 années et dont le titre est « Voyage en Mongolie et au pays des Tangouts ».
Marc, merci beaucoup.
Merci Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.